quelque chose, oui.
Anticyclonique.
Ça sert à être gagnant et avoir un jeu.
Aujourd'hui dans Anticychronique, les crocs d'Olivier Nautal.
Alors excusez-moi de vous ennuyer dès le lundi, mais en Libye on en est où ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps, sur Divergent, j'avais émis quelques doutes sur l'intervention militaire en cours, non seulement parce que le Nicolas dressé sur cette annonette en grand chef de guerre, cela horripile un peu beaucoup, mais aussi parce que je ne voyais pas très bien où on voulait en venir avec les habitants du coin. D'accord, ce fut probablement une bonne, mauvaise idée que d'effrayer un peu le clan de Kadhafi, mais après un certain temps, le fût du canon, il est toujours chaud, non ? Et il est toujours dans les mains des mercenaires du colonel, ou je me trompe. Les insurgés ne sont pas majoritairement des militaires professionnels, et leurs moyens d'intervention, ce sont surtout des pick-up avec quelques machins dessus dont ils ne savent pas trop se servir. Penser que ces braves révolutionnaires d'Afrique du Nord peuvent régler son compte au grand colonel Kadhafi, c'est super, mais cela n'a pas grand chance d'aboutir, n'est-ce pas ? Alors après que l'OTAN ait pris le commandement, les États-Unis d'Amérique du chic-clip Obama s'est retiré avec révérence. Il est vrai, il a d'autres sujets de préoccupation immédiate, comme le sort de ses fonctionnaires. Bon, qu'est-ce qu'il reste dans cette coalition ? Le petit Nicolas, de plus en plus haut perché sur cette adolescente, et une coalition essentiellement britannique. D'autres fronts s'ouvrent plus au sud, notamment en Côte d'Ivoire, où Gbagbo se fout de nous ouvertement et où rien n'est moins sûr pour la suite des opérations. Revenons à Tripoli, enfin plutôt à Benghazi, non pas encore, plutôt à, comment que ça s'appelle, Brega, situé à 190 km de Benghazi. Alors là, les soldats du colonel nous prouvent que nous ne pouvons pas grand-chose depuis le ciel. Que faire ? Difficile à dire. Certains, tel Ronnie Broman, l'ancien président de Médecins Sans Frontières, a toujours été contre une intervention militaire, en reconnaissant quand même que pour éviter le massacre programmé de Benghazi, la coalition avait eu raison d'en découdre. Maintenant, il affirme que nous sommes enlisés dans un bourbier. Un nouvel Afghanistan se profile peut-être là-bas. Il ne croit pas du tout à une opposition organisée capable d'arriver toute seule au pouvoir en chassant le colonel et sa richesse, qui peut acheter tout ce qu'il veut ou presque en Libye. Bon, je suis assez d'accord avec Ronnie Broman. On est dans le merdier, si vous me percez cette expression. La résolution 1973 de l'ONU, ben, il faut juste intervenir pour... Pourquoi faire ? Pour battre les Kadhafis, mais depuis les airs, c'est impossible. Soit on laisse faire, plus ou moins, et on croit au miracle ou au conte de fées pour penser que des insurgés libyens sont capables de s'en sortir tout seuls. Ou alors, mon général de Neuilly, les deux églises, on fait quoi maintenant ?
C'était Anticychronique sur Divergence FM, proposé aujourd'hui par Olivier Nautal.
Et Olivier Nautal, que l'on retrouve bien sûr lundi sur le 93.9, midi 10. Nous sommes toujours en direct du bar de la Vieille Porte, en bas de la rue de l'Université. Bonjour Karima.
Bonjour Bruno.
Alors ça change un petit peu des studios.
Non, c'est sympa, il fait beau.
Alors, tout de suite, c'est la revue de presse. Au programme de cette revue de presse, un retour sur la manifestation de vendredi contre les fermetures de classes dans l'éducation, l'entrée en application de la loi interdisant le port du voile intégral, les premiers avertissements d'Adopi, et comme tous les jours, un point sur la présidentielle. Et on commence cette revue de presse par l'héros du jour, qui revient sur la manifestation de vendredi contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale, Karima.
Plus de 1000 personnes se sont rassemblées vendredi après-midi pour soutenir les syndicats qui ont boycotté le comité départemental de l'éducation nationale. Parents, élèves, syndicats, mais aussi élus comme Hélène Mandrou, la maire de Montpellier, ou encore Jean-Luc Bergeon, le maire de Saint-Christol, étaient présents. Tous dénoncent les suppressions de postes et les fermetures de classes prévues alors que le département attend 700 élèves supplémentaires. Au total, 138 fermetures sont prévues, dont 66 hors classe comme les RASED. Nos enfants ont le droit d'apprendre. 60% des enfants du quartier du Petit Bar ont été sauvés par le RASED, explique Jean-Louis Gély, l'adjoint au maire de Montpellier. Les manifestants sont venus des quatre coins du département pour montrer leur ferme opposition. Une école sur sept est touchée par les suppressions, mais une sur deux soutient le mouvement. Un mouvement qui ne semble d'ailleurs pas prêt de s'éteindre. Marie-Paul Cordonnier, la secrétaire générale de la FCPE, annonce « Nous soutiendrons sans faillir toutes les actions des conseils locaux ». Ce sont 709 élèves qui sont attendus dans le département à la rentrée prochaine, selon le rectorat. Mais rappel l'héros du jour, en 2009, 750 étaient attendus et ce sont finalement 1007 élèves qui sont arrivés. Le prochain comité départemental est prévu ce mercredi à 9h. Conséquence, un nouvel appel à manifester a été lancé.
Et on poursuit avec le 20 minutes qui annonce un embarras des policiers face à l'application de la loi interdisant le port du voile intégral.
Et oui, à partir d'aujourd'hui, les femmes qui porteront le voile intégral, que ce soit le niqab ou la burqa, pourront être verbalisées par un PV de 150 € au maximum et ou auront l'obligation de faire un stage de citoyenneté. Le problème, c'est que côté policier, on craint de ne pouvoir appliquer la loi. De plus, une circulaire du ministère de l'Intérieur datée du 31 mars précise que, je cite, « les forces de sécurité n'ont pas le pouvoir de faire ôter le vêtement qui dissimule le visage ». En clair, si la personne refuse de montrer son visage, elle pourra simplement être conduite au poste. Une situation qui inquiète les syndicats de police, ainsi pour Mohamed Douane du syndicat Énergie Officier. La loi sera difficile à appliquer de la même manière partout en France. Cela pose le problème de l'égalité de tous devant la police. Si je devais appliquer la loi, j'y réfléchirais moi-même à deux fois si j'étais dans un quartier sensible. Autre problème, le risque de provocation d'une minorité et surtout la question, peut-on appliquer la loi à la femme d'un émir qui sort de chez quartier? Les syndicalistes craignent donc d'être lâchés par leur hiérarchie en appliquant cette loi à de puissants étrangers. Cette loi, qui date d'ailleurs du 11 octobre 2010, interdit la dissimulation du visage dans l'espace public et s'applique aussi bien dans les cinémas que dans les cafés et restaurants. Pour rappel, cette loi concernerait moins de 2000 femmes en France.
Et par contre, ça ne concerne pas les gens qui sont dans leur voiture ou chez eux, évidemment.
Non, pas dans les voitures.
On continue avec le Midi Libre qui a rencontré trois internautes de la région et qui ont été avertis par Adopi pour le téléchargement illégal.
Ils s'appellent Thibaut, Michel et Phil, ils ont entre 19 et 58 ans et ont tous reçu les recommandations d'Adopi, autrement dit les premiers avertissements. Pourtant, tous se disent prêts à payer pour télécharger, mais entre 20 et 30 euros par mois, pas au prix actuel du marché. Côté effet dissuasif, il y a des différences. Pour Michel, le plus âgé, la prudence s'impose. Thibaut a arrêté de télécharger via les fichiers dits torrents qui sont très surveillés par Adopi, mais sur un site de téléchargement direct, donc tout aussi illégal. Seul Phil n'a rien changé, estimant, je cite, « on doit bien être 5 millions à télécharger et la cadence n'est que de 1600 mails par jour » et d'ajouter « de nombreux groupes se sont fait connaître grâce au téléchargement et gagnent leur argent de leurs concerts ». Problème pour lui, c'est qu'Adopi passe en phase pénale à partir du mois de décembre. Mais dès aujourd'hui, si les personnes ayant fait l'objet d'un premier avertissement sont prises en récidive, elles recevront un second avertissement plus sérieux. Adopi prévoit d'ailleurs d'augmenter le nombre de recommandations, passant de 1600 à 200 000 par jour d'ici le mois de décembre.
Et pour finir, comme tous les jours, on fait un petit point sur la présidentielle avec Libération de ce week-end qui revient sur le programme économique du Front National.
C'est vendredi que la présidente du Front National a présenté le volet économique du programme du FN à l'occasion non pas d'une conférence de presse mais d'un petit déjeuner de travail. Un volet dont elle assure qu'il a été élaboré par un ensemble de hauts fonctionnaires, de professeurs et d'économistes mais dont elle garde l'anonymat. Elle souhaite réarmer la France face à la mondialisation et commencerait, si elle était élue, par sortir de l'euro mais de manière négociée avec les autres pays européens. Avec 1 franc égal à 1 euro, elle prône la dévaluation positive pour relancer la croissance. Et en cas d'attaque des marchés sur le franc, les experts du parti prônent soit une monnaie flottante, soit l'instauration des contrôles d'échange. Le FN ambitionne de reconstruire un État fort dont l'objectif serait de réindustrialiser le pays. Marine Le Pen, je cite l'article, n'hésite pas à réclamer la nationalisation du secteur énergétique, voire de certaines entreprises bancaires en difficulté, plutôt que l'argent des contribuables aille les renflouer. Pour l'emploi, le FN met en avant toujours la préférence nationale, je cite, à compétences égales, les emplois devront aller en priorité aux Français. Côté déficit public, elle espère réduire la dette de 80% à l'horizon 2025. Pour des données chiffrées plus précises, le parti se laisse le temps de peaufiner les détails. On suivra tout ça, bien sûr. Et Et à présent, on finit comme il se doit cette revue de presse, c'est l'heure de l'annonce du jour. Pas d'annonce du jour, mais une annonce tout court. Si vous aimez la politique ou si vous voulez simplement assister à une émission de radio, venez nous rejoindre en direct du bar de la Vieille Porte en bas de la rue de l'Université à Montpellier. Dans un instant, c'est Yves-Marie Le Bozec qui vient faire sa provoscopie en direct du bar et avec pour invité tous les partis politiques allant de la gauche à la droite de la droite.
Et oui, parce que Divergence lance les présidentielles. Aujourd'hui, c'est à partir de 12h30 sur le 93.9. Pour l'heure, on va s'écouter le coup de cœur de cette semaine, un coup de cœur choisi par Simon Morin. Le groupe, c'est Setanta, c'est un groupe français de Latin Funk. On va s'écouter aujourd'hui le deuxième titre de cet album et le titre, c'est Funkin' Tombao. On en parlera un petit peu plus dans la semaine sur le 93.9.
Tout bagaille, tout paye en moins, Madini.